Aujourd'hui, dimanche 17 mars, je vais bien.
Enfin bien, je vais pas mal.
Moi, je suis toujours aussi triste de la décision prise par le président Bouteflika de ne pas se représenter pour un cinquième mandat en Algérie. Je suis sûr que depuis son fauteuil roulant, depuis son assistant respiratoire, depuis son pacemaker, il aurait pris de très bonnes décisions pour l'avenir du pays. Bon, sinon, en France, c'est la fin du grand débat, ce grand chantier pour prendre le pouls de la France. Alors, parmi les idées suggérées pour sauver la France, celle-ci, l'obligation pour un élu d'avoir un casier judiciaire vierge. Une réaction ? Ah ouais, on est d'accord. Bon, du coup, passons une info aussi essentielle que joyeuse, voire jubilatoire. Oui, aujourd'hui, 17 mars 2019, Patrick Duffy a 70 ans. Patrick Duffy, mais oui, l'homme de l'Atlantide ou encore Bobby dans Dallas. Oh, quel acteur et quel chanteur également. Hein. Personne n'a oublié son fameux duo avec... Ah, ça renvoie, hein. Avec la belle Mireille Mathieu. Alors, je sais pas ce qu'il y a de plus désagréable. Un mec qui sait pas chanter ou une chanteuse qui chante trop fort. Je ne sais pas. Enfin, aujourd'hui, n'oublions pas que c'est la journée mondiale de la schizophrénie. Et oui. Du coup, moi, Napoléon Morin, je vous souhaite la bienvenue sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission du dimanche, podcastable à volonté les amis, sur le site de France Inter. Pour m'accompagner, un homme que j'adore, et pourtant, Dieu sait qu'il est agaçant, à savoir tout sur tout, quel que soit le sujet. Il partage ma vie 4 matins par semaine, entre 6h45 et 7h. Comment allez-vous mon très cher Anthony Bélanger ?
Mais aussi bien que vous. Je vais très très bien. Et en plus, je suis à côté. Enfin bref, je ne dis rien. Je suis à côté de deux stars et de personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration. À part vous, bien entendu.
Ah, merci quand même. Pendant un moment, j'ai eu peur. Allez, arrêtons le suspense. Nos invités en ce dimanche 17 mars sont
France Inter. Vous les femmes. Daniel Morin.
Chanteuse, auteure, compositrice, poétesse, écrivaine, peintre, plasticienne, mais aussi comédienne. Elle a toujours refusé de se laisser enfermer dans un style ou un genre. Elle a connu les scènes de tous les continents. Elle vient nous voir aujourd'hui pour son album de reprise des chansons de Barbara, ainsi que pour son dernier livre aujourd'hui, Journal au bord, aux éditions Bruno Doucet. Bonjour et bienvenue à vous. Vous avez reconnu sa voix. Safo, comment allez-vous?
Bonjour vous. Ben, très bien.
Je vous ai vu
relativement bien.
Je vous ai vu danser un peu de façon Lac des Cygnes tout à l'heure.
Oui,
ben, c'était magnifique.
C'était l'indicatif qui m'a...
Oui, qui vous a inspiré.
Inspiré, absolument.
Chaque fois qu'il y aura une musique, vous allez danser dessus?
C'est-à-dire que, bon, quand j'avais 12 ans, je faisais de la danse classique, oui. Alors ça me rappelait de, voilà,
en
des
tout
souvenirs
cas,
d'enfant.
Vous n'avez rien perdu.
Oh, c'est gentil.
Face à vous, ça faut passer par toutes sortes de planches, celle du ring, celle de l'écritoire et celle du théâtre. Cette boxeuse écrivaine et aujourd'hui comédienne vient nous voir pour parler de la pièce Sur la route. Nous avions déjà reçu avec beaucoup de bonheur, je dois le préciser, cette championne du monde de boxe, c'était le 7 janvier 2018. Bonjour et re-bienvenue à vous, Aya Sissoko.
Bonjour.
Ça va?
Bah écoutez, très très bien. Heureuse d'être parmi vous.
Eh ben, c'est partagé.
Et de faire face à Safo, hein, quel honneur.
Ben, moi aussi, hein, je suis ravie d'entendre toute votre histoire merveilleuse, franchement.
Modeste par rapport au vôtre.
Ah
bon.
Non.
Ça va,
oui,
toutes les
deux? Forcément, moi je suis hors d'âge.
Bah, écoutez, on monopolise,
en
ça y est,
cas,
on monopolise les micros.
Ça se passe très bien, toutes les deux. Je suis ravie. Bah, Anthony, au cours de l'émission, de quoi allez-vous nous parler?
Écoutez, on va faire un espèce de tour du monde. On va parler d'Oum Kalsoum, on va parler de Fairouz, on va écouter un petit peu de chansons noires américaines, on va même écouter un peu de samba brésilienne. Mm-hmm. Et vous allez voir que chaque fois, on aura une bonne occasion de parler de chacune de nos invités.
D'accord, on parlera aussi des rapports compliqués, police, communauté afro-américaine.
Ça, bien sûr,
aussi,
parce que c'est le spectacle de. Voilà.
Absolument. Eh bien, tout ça, c'est jusqu'à. À 18h, c'est sur France Inter, c'est les amis dans Vous les femmes. Falls Exits.
Mm-hmm.
Pause Exits. Je vous rappelle que Fools était en concert à la Maison de la Radio. C'était mardi dernier. C'était la soirée présentée par, évidemment, l'excellente Rebecca Manzoni.
Vous, les femmes.
Uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui, les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
En compagnie, très bonne compagnie, celle de Sapho, danseuse classique qui pendant tous les morceaux, il ne vend plus que le tutu.
Pas pendant l'autre morceau, j'étais plutôt dans un
Vous étiez plus dark,
oui. Bah oui, oui, c'était dark.
Évidemment, évidemment. Et elle vient nous voir pour son album de reprise de Barbara, le titre « Sapho chante Barbara ».
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines là, j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux.
Évidemment, on a reconnu Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais Sapho, vous venez de voir aussi pour votre livre aujourd'hui, Journal à bord, au bord, pardon, paru chez Bruno Doucet. Je vais y arriver avant la fin de l'émission. C'est paru il y a une dizaine de jours. Face à vous, Aya Sissoko pour la pièce Sur la route, Dan Vouten, pièce monologue à trois voix. On va parler des dates importantes qui ont émaillé vos parcours. Mesdemoiselles, on commence par vous, Aya, si vous voulez bien.
Bah écoutez, allez-y.
Ça m'arrange. On commence le 23 novembre 2006, championne du monde de boxe à New Delhi. Super le titre, mais pendant le combat...
Une blessure.
Problème, une blessure. Mmh. Bah championne du monde déjà, c'est formidable.
C'est formidable, mais bon, effectivement, une fracture de la cervicale lors de la troisième reprise. À la suite de cela, une fin de carrière. Mais en beauté.
En apothéose.
Formidable.
Mais comment est-ce qu'on peut continuer
mourir sur scène?
Comment est-ce qu'on peut continuer de boxer quand on a une fracture de la cervicale?
Bah tout simplement parce que les sportifs et sportives de haut niveau sont conditionnés pour être durs au mal, et donc malgré la douleur, on se dit il y a un objectif à atteindre, donc on serre les dents, on tient bon sans véritablement se rendre compte de la gravité de la blessure.
C'est fou.
Parce que là c'est incroyable, fracture de cervicale. Enfin, moi, j'ai un angle incarné, j'abandonne.
Vous êtes un homme.
Grande qualité d'observation, j'en doutais, mais là, vous m'avez
exactement ça. Moi qui connais bien en plus, c'était exactement ça.
Un homme et empereur en plus.
Napoléon. On passe à février 2011. Dan B, premier livre chez Kalman Levy, adapté à la télé pour Arte.
Coécrit avec Marie Desplechin, effectivement une adaptation pour la chaîne Arte. Un téléfilm qui va recevoir le grand prix du meilleur téléfilm à La Rochelle.
Wow.
Donc je tiens à le préciser. Enfin, c'est dingue. C'est-à-dire qu'à aucun moment je me serais douté que ce livre serait aussi bien reçu et qu'on le verrait sur nos écrans, à l'image. Et ce qui est formidable avec cette adaptation, c'est que voir une famille française, mais noire, à une heure de grande écoute, dans des rôles qui ne sont pas clichés, hein, c'est quelque chose de formidable.
C'est ça qui est très nouveau, en fait.
Très important. Mmh.
Très important, en tout cas, pour la représentation des petites filles et petits garçons, de se dire, on peut y arriver malgré les difficultés.
Cinq ans plus tard, c'est votre deuxième livre.
Exactement, Mba.
Mm-hmm. Chez le même éditeur.
Toujours chez Kalman Levy, donc avec la chance qu'il soit traduit en allemand. Mm-hmm. Donc c'est juste génial. En fait, l'aventure continue et puis on fait ça avec...
Toujours l'alignement des planètes qui est positif.
Écoutez, je ne sais pas si l'alignement des planètes, mais en tout cas on fait les choses avec conviction, avec envie et... A priori, ça plaît.
Et en avril 2018, on découvre Aya Sissoko, comédienne. Le 20 avril, c'est la première sur les planches avec Sur la route, la pièce d'Anne Voutet.
Exactement. Alors là, j'ai eu la chance de participer à une formidable aventure humaine aux côtés donc, de trois comédiennes, donc Mata Gabin, Rachel Kahn et Manda Touré. Et effectivement, sous l'impulsion de Anne Voutet, de la metteur en scène Karima Gardaoui. Donc une pièce qui traite des violences policières, puisqu'il s'agit
C'est un drame, l'histoire c'est un drame.
C'est un drame, puisqu'il s'agit de l'histoire de Sandra Bland, donc qu'on a retrouvée morte suite à un défaut de clignotant. Mais ce qui est formidable, justement, dans la démarche de l'auteur, c'est qu'elle a cette volonté de rendre une humanité, justement, à cette femme, de dire que ce n'est pas un simple fait divers, mais ce n'est pas une simple statistique. Cette femme avait la vie devant elle, elle avait des espoirs, un amoureux, une famille, parce qu'on a tendance, effectivement, à oublier que derrière ces drames humains, c'est aussi, tout un entourage qui trinque.
Mais qui est détruit.
Qui est détruit, effectivement. Et la recherche, la quête de vérité aussi est une route semée d'embûches.
Qu'est-ce que vous entendez par monologue à trois voix ?
Donc nous sommes trois comédiennes lors de chaque représentation qui jouent le même rôle. Donc il y avait aussi cette volonté de l'auteur de dire que c'est un drame qui peut arriver à n'importe qui. C'est-à-dire que cette femme qui se rendait à sa première journée de travail ne s'attendait absolument pas à rencontrer ce policier qui allait mettre un terme à son existence.
C'était important pour vous, pour votre première pièce, que ce soit une pièce avec résolument du fond?
Alors, dans les démarches qui sont les miennes, j'aime justement que c'est du sens, que c'est un impact politique aussi, parce que je pense qu'en tant qu'artiste, auteur, interprète, il y a cette nécessité de faire passer des messages, de parler en fait aussi, de s'inscrire dans la réalité et de dénoncer les injustices. Et dans le contexte qui est le nôtre, c'est d'autant plus important.
Alors vous l'avez dit, c'est une pièce qui est mise en scène par Karima Gerdaoui, Anouvoutey, qui par ailleurs, on l'a dit, a signé la pièce. Vous jouez aux côtés de Mata Gabin et Rachel Kahn, une pièce résolument féministe, car non seulement elle a été écrite par une femme, mise en scène par deux femmes, jouée par trois femmes, mais également chorégraphiée, éclairée, mise en musique par des femmes.
Napoléon n'est pas content.
Seul ombre au tableau, l'ingénieur du son, c'est un homme. Comment s'appelle ce martyr?
Mais sa faute, en plus, le pire, c'est que j'ai oublié son nom, c'est horrible. Mais sa faute, tu te rendras compte que dès que les hommes se retrouvent en minorité, ils le remarquent.
Ils souffrent.
Alors que quand ils sont entre eux, ça devient normal.
Oui, je sais, I know.
D'accord, vous faites la maline. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé le 21 avril pour la deuxième de Sur la route?
Ah, c'est un coup bas. C'est un coup bas.
Ah oui.
Il est terrible. Hein, la vengeance, c'est pas. C'est vrai que donc deuxième soir de restitution. Hein, donc à savoir que c'est ma première expérience scène. Et j'oublie une réplique.
Oh, quelle horreur.
Horreur. Cauchemar, ouais. Mais bon, j'ai eu la chance d'être très très bien entourée justement de comédiennes expérimentées.
Qui vous ont soufflé votre.
En tout cas, qui m'ont permis de reprendre la route.
De pouvoir continuer sur la route. Ah là là, bien joué.
Et ouais. Comme quoi, je retombe toujours sur mes pieds.
Sur vos pattes. Et oui, la sportive de haut niveau. Sapho, à votre tour, on va parler de quelques dates qui ont émaillé votre parcours brillant et varié. On commence en 1979, des retrouvailles avec Jean-François Bizot.
Oui. Jean-François, que j'avais croisé dans une autre vie, j'atterrissais à Paris, et qui m'avait entraîné dans... Moi, je n'ai jamais pris aucune drogue, qu'un truc, il m'avait entraîné dans un endroit où tout le monde était couché avec du shit ou je ne sais quoi, et ils regardaient tous un concert, ça devait être un peu psychédélique et tout, je comprenais rien à tout ça, et je m'étais enfui. Et puis je l'ai retrouvé, mais longtemps après, lorsque j'avais fait un premier disque, non, même pas encore, et il y avait Kraftwerk. J'avais fait un premier disque chez RCA qui était un peu comme ça, à l'arrache, ne sachant pas trop ce que je faisais, c'est mon premier disque. Bon. Et il avait été merveilleux parce qu'il avait dit « Écoute, tout n'est pas mauvais dans ce disque.
Ah, » C'est un gros compliment.
Pour Jean-François, oui. Et donc il m'a dit « Je t'envoie à New York parce que je voudrais que tu fasses un papier sur le rock à New York, de ton point de vue. » Alors. Mm-hmm. Et ça avait été le début d'une longue histoire parce que j'avais donc effectivement, non seulement fait un papier, mais j'avais trouvé un bassiste qui avait l'air moins méchant que les autres, c'était l'époque punk, ils étaient tous un peu pâles, un peu défaits, etc. Et lui, il avait un peu du mou, il était rondouillard, il avait allumé sa cigarette, jeté la cigarette, jeté le briquet, il avait pris sa basse pour jouer, je me suis dit, ce type n'est pas complètement...
C'est quelqu'un de bien.
Et je l'avais abordé avec mon petit disque, et j'avais dit, voilà, je suis une chanteuse française, qui... je suis une journaliste française, et il me dit, oh, il m'a regardé avec terreur, une journaliste française qui veut faire du rock. Je lui ai dit, écoute, tu écoutes mon disque, et puis il écoute mon disque et il appelle deux personnes, dont Billy Fika, le batteur de Television, mais moi j'étais ignare, donc je les ai traités avec beaucoup d'autorité, comme ça. Et nous avons fait un concert et ça a été le premier disque avec ce groupe américain qui s'appelait Janis. C'était un hommage à Janis Joplin, voilà, c'était ça.
Dans les années 80, vous êtes à Rochefort-sur-Mer, qu'est-ce qui vous arrive?
Alors là, l'horreur totale, on fait une balance, il y a une scène un peu en pente, mon régisseur le fait remarquer au directeur, qui semble un peu comme ça, et en effet, je fais tout le concert quand même, le travail a été fait, et au rappel, je chante l'accordéoniste a cappella d'Edith Piaf, je tourne sur moi-même comme ça, il y avait une écharpe par terre, je glisse sur l'écharpe, et je tombe dans la fosse d'orchestre 2 mètres... Je me casse.
Parce que vous êtes entière.
L'aile sacroiliaque. Je me casse l'aile sacroiliaque et la côte, mais sur le coup. Mon régisseur se dit. Elle n'est pas morte, elle bouge des pieds, elle n'est pas paralysée.
Ça va.
Mais quand même, il y avait du sang qui coulait sur mon front. Heureusement, ce n'était qu'une épingle à cheveux qui était entrée dans le cuir chevelu et ça faisait un peu, c'était impressionnant. Je me perds connaissance. Et c'était très intéressant parce que je me suis dit, j'aurais pu en mourir parce que j'étais à quelques centimètres du radiateur et j'aurais pu effectivement exploser la tête. Et je me suis dit, finalement, la mort, c'est pas grand chose. C'était une extinction des feux. Tac! Plus rien. Puis on sort et je sens du vent et des applaudissements dehors. Je me dis c'est paracord, j'étais dans une salle fermée, c'est paracord. Et en fait, c'était une civière, on m'emmenait vers l'hôpital et à l'hosto, j'ouvre les yeux et je vois triple tout. Et je me dis mince, moi qui voulais peindre cubiste, comment je vais faire? Je vois cubiste. Voilà, c'était les répliques. Et puis bon, j'en suis réchappé.
En 82, c'est votre album Passage d'enfer.
Ouais. Absolument, et c'est là, c'est mon premier album où je décide, c'était le troisième, donc je décide de faire quelque chose qui me semblait important, à savoir de faire une fusion entre parce que je suis née au Maroc, entre l'Orient et l'Occident, d'introduire des sons orientaux, des phrases orientales, et mon originalité de l'époque, c'était que c'était pas du collage comme avait fait H.S. Bush's David Byrne et ça, c'était des réminiscences et c'était une recréation de phrases orientales avec des gammes orientales que j'introduisais avec mon petit Casio de 50 €, enfin à l'époque je sais pas combien, c'était un petit clavier, mais il y avait des sons qui faisaient penser à la cornemuse arabe. Et voilà. Et j'avais introduit ces petites phrases. Et c'était la première fois que j'osais faire ça. Et j'ai chanté aussi une chanson en arabe. Et mon attaché de presse de l'époque, à Yamaï, a fait une tronche diabolique. Elle a dit, écoute, tu es sûre? Une chanson en arabe? Et les autres me disaient, et à la radio, on disait, vous savez, nous, on n'est pas racistes, mais les gens sont racistes, on peut pas passer ça. Et ça passait la chanson arabe, que j'avais chantée la seule, passer la nuit en cachette.
La nuit en cachette. Ben justement, chanson arabe, une chanteuse qui compte beaucoup pour vous, Oum Kalsoum. Et vous l'avez vu en concert au Théâtre de la Ville?
Non,
non, vous l'avez pas vu.
Mais j'avais vu ses musiciens après sa mort jouer avec Zaina Tounsia et j'avais été éblouie et je m'étais dit mais cette musique est immense, il faut absolument que les gens l'entendent autrement que par une radio crachotante, il faut absolument que je restaure du respect à cette musique et c'est pour ça que je me suis embarquée dans cette folie.
Bon, alors Anthony, Oum Kalsoum, ça vous parle?
Évidemment que ça me parle. Oum Kalsoum, c'est l'astre de l'Orient, c'est cette femme qui bouleverse le Moyen-Orient. Il n'y a pas un moyen de comprendre l'arabe ou de comprendre le Moyen-Orient sans comprendre les chansons d'Oum Kalsoum. Elles sont chantées par toutes les générations. Je rappelle qu'elle est morte en 1975. C'est une femme absolument remarquable qui n'a chanté qu'une fois d'ailleurs à l'étranger. C'était à Paris, à l'Olympia. Ouais. Avec cette histoire absolument incroyable qu'on raconte, que le Brugge Tracatrix, vous la connaissez cette histoire, lui dit mais combien allez-vous chanter de chansons, madame? Eh bien deux, mais vous êtes folle. Enfin voyons, impossible de chanter deux chansons à Paris. Vous allez en chanter une bonne dizaine, comme tout le monde, comme Sheila, comme voilà, comme les chanteurs auxquels j'ai l'habitude. Alors, elle se plie un peu à l'histoire, elle dit bon bah écoutez, je vous en chantais 6. Elle a chanté 6 chansons, 2 fois 3 chansons à Paris. Ça c'est à 2h30 du matin, elle y était encore.
Mais
pourquoi?
Oui, mais oui.
Parce que les chansons de Oum Kalsoum sont des mélopées immenses.
Sont des opéras.
Exactement.
À une voix.
Je voulais aussi vous parler d'une autre chanteuse, tout simplement parce qu'elle est pratiquement née en même temps que Barbara, qui est Fairuz.
Et elles ont une voix, il y a quelque chose de commun entre elles.
Exactement. Ouais. Entre Fairuz et Barbara, il y a en commun un peu de politique, beaucoup d'amour, et aussi effectivement une voix. Qui se passe presque de musicien.
Soprane, cette voix flûtée un peu.
Et on l'écoute là, on l'entend.
Vous avez rencontré Fairuz?
Oui, alors j'étais la voir à un concert, et c'était Salle Pleyel. On était tous transis. Le public était comme, effectivement, devant une diva. Alors, il y a 20 minutes d'introduction. Fairuz n'arrive toujours pas. Elle entre et elle est absolument hiératique, elle bouge pas à part, et alors elle a des cils qui sont comme du plomb quand elle, quand il, des paupières, plaf, qui tombent au sol. C'est ça son jeu de scène. Et elle chante sa chanson, et elle commence à faire ah, et nous on est là, on est fait ah, on est tous dans cette bande.
Oui, parce que le silence fait partie des chansons à la fois de Fairouz
et de la musique orientale.
Et de la musique orientale. Et puis aussi de Oum Kalsoum. C'est-à-dire que c'est presque 20 minutes, 10 minutes de musique avant elle. Ouais. Le fait qu'elle apparaisse, c'est déjà une surprise. Le fait qu'elle ne chante pas tout de suite, le fait qu'elle sorte, ça c'est pour Oum Kalsoum, son mouchoir blanc, le fait qu'elle se prépare à commencer sa mélopée.
Ça tue le public.
Exactement, c'est déjà de la chanson. Alors vous avez chanté Oum Kalsoum, vous avez chanté peut-être un peu Fairouz, mais vous avez surtout chanté Oum Kalsoum. Qu'est-ce que vous trouviez de...
Alors,
parce qu'on ne peut pas imaginer plus chanson plus différente ou répertoire plus différent que celle d'Oum Kalsoum, du vôtre. Expliquez-nous un peu ce que vous avez en commun.
Non, c'est que Oum Kalsoum, je l'entendais quand j'étais enfant, dans toutes les radios crachotantes, parce qu'au Maroc, on l'entend, c'est inévitable. Dans les souks, dans les boutiques, on entend, elle est là, quoi. Elle fait partie de la vie de tout le monde, de tout le monde arabe, en fait. Et... Donc, elle était là. Mais moi, comme tous les enfants, j'aimais pas Oum Kalsoum. D'ailleurs, mon père préférait Fairouz. Et j'aimais pas trop. J'y comprenais que dalle. Bon. Mais ensuite, très longtemps après, je vous dis, quand j'ai vu cette chanteuse, Zaina Tounsia, chanter, j'ai commencé à réentendre. Et au moment où j'ai décidé d'introduire ces sons orientaux, j'ai de nouveau écouté. Et je me suis dit, mais c'est immense. Cette musique est immense. J'ai, pour mon plaisir, j'annonnais avec Kalsoum, je chantais l'Atlas, parce que c'était la chanson dont le texte que je trouvais magnifique, il disait « Serre-moi et bois aux ruines de notre amour ».
Ce sont toujours des poèmes, d'ailleurs.
Des poèmes d'amour désespérés.
Chantés par des hommes qui l'ont aimé, d'ailleurs.
Edith Piaf et tout. Bon, oui, qui d'ailleurs était transi d'amour, qui lui écrivait des lettres d'amour et qu'elle chantait. Et puis, je sais pas, quelqu'un, par hasard, m'a provoqué à chanter, c'était au Maroc, avec l'orchestre du Maroc, cette chanson-là. Alors, j'ai fait ça, mais complètement follement, je me suis embarquée à le faire, et je l'ai chanté très mal. Et avec cette espèce de cassette qu'avait faite un de mes amis, il est allé voir Gérard Violette au Théâtre de la Ville, et il lui a dit, est-ce que vous programmeriez ça? Il lui a dit, dans un an. Il me dit, ça faut, tu es programmé au Théâtre de la Ville dans un an avec El Atlas. Je dis, quoi, quelle horreur. Puis le sort en était jeté, quoi. Et pendant un an, j'ai travaillé. Et ça a été merveilleux. Ça a été un apprentissage merveilleux. J'ai chanté différemment. Je n'ai plus chanté de la même manière, de toute façon. Et puis, ça a été d'entendre, d'entrer dans les arcanes de cette musique, avec les gammes, avec tout ça. C'est parce qu'il y a une science extraordinaire dans cette musique.
Ce qu'il faut expliquer, c'est une musique à la fois, ce sont des mélopées qui vont très loin, mais ce sont aussi un vrai talent musical, un vrai talent choral, et une technique incroyable.
Avec des gammes très, très précises, parce que nous, dans le jazz, nous, on a une gamme de do, alors elle est ce qu'elle est, et bon, quand on improvise, bon. Mais eux, quand ils improvisent, il faut être dans la gamme. Donc quand vous improvisez, il ne faut pas sortir de la gamme. Parfois, vous pensez que c'est joli, mais non. Ah non. Et alors, il y a le Kranoun qui vous dit « Ah non !»
Et voyez, c'est ce qu'il y a des artistes qui vous envoûtent comme ça, comme avoir Oum Kalsoum ou Fairouz sur sa faute.
Billie Holiday, bien évidemment.
Et oui, et d'ailleurs, peut-être Billie Holiday.
Exactement, Billie Holiday, et magnifique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons appelé notre fille Billie.
Ça tombe très bien, parce que...
On va revenir dessus, mais déjà, on va finir avec les dates de Safo. On va parler de ce concert Orient au pluriel, avec l'orchestre de Nazareth.
Ah oui, là, c'était aussi une très belle histoire. Bon, je suis donc née au Maroc, je suis juive, et j'ai vu des Arabes, des Juifs, des chrétiens manger, dormir ensemble. Je suis de Marrakech, et j'ai toujours cette espèce de nostalgie de cet endroit où il était possible de vivre ensemble. La folie violente du Moyen-Orient m'a toujours interpellée, et de la guerre en général. Et donc, j'ai eu cette chance, à un moment donné, donc je voulais chanter des deux côtés de la guerre, au Moyen-Orient. Nous avons organisé ça avec mon partenaire Eli Grunfeld, qui est mon producteur là-bas à Tel Aviv, qui est un Israélien de gauche, le malheureux. Et donc, voilà. Il m'a fait rencontrer cet orchestre de Nazareth qui était fait de musulmans, de juifs et de chrétiens. Et vous savez qu'à Nazareth, l'idée pour les Arabes israéliens, c'est de se souvenir de la culture, de ne pas oublier la culture. Et nous avions joué en Irak, où au contraire, c'était, il fallait s'ouvrir au monde extérieur. Et ils avaient une toute autre attitude. C'était une tournée, comme ça on a fait à Bagdad. Donc je rencontre cet orchestre. Nous répétons. Alors, il y a le meilleur et le pire dans l'orchestre, d'ailleurs. Mon producteur américain s'est arraché les cheveux quand il a vu les pistes, parce qu'il y en avait qui... C'était les cousins du mec. Ils chantaient un peu faux. Ils jouaient un peu faux, mais c'était pas grave. Mais bon. Et on a fait un concert à Chaillot, dans ce magnifique théâtre. Et j'ai fait un disque qui s'appelait Orient. Ce disque était fait de manière... c'était en français, mais avec les réponses arabes, comme avec le même principe que dans les chansons arabes, où l'orchestre répond à la chanteuse. Mmh. Et nous avions travaillé ça. Et nous avons fait un soir Orient et un soir Kalsoum. Et c'était bien sûr pour nous une façon de dire la paix n'est pas faite, la paix ne se fait pas, mais nous la faisons tous les jours, aujourd'hui, ici et maintenant. Nous la faisons.
Ça se passe ici.
Voilà.
En tout cas, ça se passe
ça
là.
Ça se passe là.
Et donc, en mars 2019, vous venez sur France Inter pour nous parler de votre album de reprise de Barbara, le titre Sappho, chant de Barbara. Ça a le mérite d'être clair.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés.
On peut pas passer Pierre.
Dernier naufrage, au printemps, tu verras.
Non.
Je serai de retour le printemps.
Dis quand reviendras-tu, mais il y a également...
Si je t'écris ce soir de Vienne, ah, j'aimerais bien que tu comprennes.
Oui, on a appris plusieurs.
D'accord. Que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd.
Pourquoi Barbara ?
Alors Barbara, elle fait partie de notre panthéon personnel à beaucoup de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimée. Moi, à mon adolescence, c'est la première femme chanteuse qui m'a touchée. Et je me suis, c'est ensuite, bien longtemps après, que je me suis dit, mais oui, c'est parce qu'elle était auteur de ses chansons. Et je me rendais pas compte que ça me touchait parce qu'il y avait, c'était sa parole. Et c'était ça d'abord, hein, je crois. Et ensuite, elle fait des chansons totalement délicieuses et touchantes, attachantes, etc. Et puis, je crois qu'après, je me suis formulé des tas d'autres choses. C'est une femme qui a connu la guerre quand elle était enfant, qui avait donc une conscience aiguë de ce que c'était que d'être poursuivie pour quelque chose de fou, comme sa religion.
Sa judaïté.
Et comme on connaît bien tout ce qui est racisme, etc., ici, avec Aya, je suppose aussi. Il y avait ça, je crois que ce qui m'a enchantée, je l'avais vue en concert un peu avant sa mort, je me suis dit, mais cette femme, elle exprime tous les combats que j'ai pu exprimer, mais avec une douceur. Elle avait une telle horreur de la violence. Et c'était pour moi d'une élégance folle. Moi qui crie de temps en temps, etc. qui suis pas
qui
du tout...
Qui criait, qui dansait.
qui hurlait. Je la trouvais magnifiquement élégante et touchante et puis juste. Enfin, elle disait tout ce qu'il y avait à dire. Quoi. Et voilà, c'est aussi pour cette personne qu'elle était.
Donc, elle vous envoie un télégramme avec marqué dessus « Vous existez très fort avec vous, Barbara ». Ça a changé quelque chose chez vous, ce télégramme ?
Ah, ça m'avait totalement pétrifiée. Oui. J'étais très émotionnée. Et voilà, ça, après, c'était des signes. Je pense qu'elle envoyait des signes à beaucoup de gens. Je crois que c'était une femme généreuse et qu'elle était attentive à tout ce qui arrivait.
Sappho chante Barbara. Là, on est en train d'écouter Pierre, la chanson. Que...
Voilà.
Il pleut, ça c'est l'arme de pluie, il pleut. Et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Mon Dieu, que c'est joli, la pluie. Tiens, quand Pierre rentrera, il faut que je lui dise que le toit de la remise n'a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici.
Donc un très bel album, Sappho chante Barbara. Et vous l'avez compris, Anthony Bélanger est fan de Sappho.
Totalement.
Mais pourquoi donc ?
D'abord pour une raison qui est presque personnelle, parce que vous êtes une femme libre et vous êtes ensuite une icône gay.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
On en a un petit peu discuté, mais vous le savez, vous êtes une icône gay dans une période un peu particulière, qui est ce début des années 80, qui pour le mouvement gay était le début en fait de la libération. Et vous avez été très importante pour beaucoup de gays en chantant notamment, eh bien, cette chanson incroyable qui s'appelle Rue du Four.
Au bras d'un petit blond insipide, montre Rue du Four 6 heures.
Alors pour beaucoup de gays de l'époque, hein, et de lesbiennes aussi, d'abord vous appelez Sappho, c'est quand même cette poétesse du 7e siècle avant Jésus-Christ, hein, qui a chanté les amours saphiques. Vous êtes la rue du Four, c'est aussi l'endroit où il y avait des bars gays, il y avait notamment le Katmandou, le célèbre bar lesbien. Il y avait aussi Mécanique, cette chanson incroyable. Vous parliez de Godemichet et de sexualité ouverte. C'est une époque incroyable où partout en Europe, en fait, il y avait de petites ou de grandes Sappho qui n'ont aucun rapport musical avec vous, mais qui ont inspiré les Anglais, les Britanniques. Et je voulais vous faire découvrir quand même une Sappho un peu particulière, une Sappho de la Movida espagnole, une Sappho incroyable qui s'appelait Alaska, qui avait à peu près votre look à l'époque, un look punk qui apparaissait sur les scènes et qui enthousiasmait les foules et qui était l'ami de Almodovar, qu'on retrouve dans les premiers films des films Almodovar, qui s'appelait donc Alaska et qui chantait cette chanson incroyable. Bon, je dois vous avouer que c'est un peu pour goût, hein, le goût pour moi de la jeunesse, parce que je connaissais.
On ne connaît pas Barbara. Non, mais Barbara.
En fait, quel est le point commun? J'aurais pu vous passer Cyndi Lauper. À la fois le look, cet air punk, ces années 80, et surtout ces femmes libres.
Voilà, moi je crois que ce qui était très drôle, c'est que, et je me rendais pas compte, je crois, de l'étendue de ma liberté. Je vais vous expliquer, c'est que je venais d'un endroit justement où les femmes étaient un peu contraintes, où on sortait pas le soir, etc. Et je me suis dit, donc ici tout est permis. Mais je me suis rendu compte que c'était pas si simple, parce que par exemple, je me suis dit, les femmes peuvent draguer des mecs. Là, ça les avait tétanisés. La seule expérience que j'ai faite, je me suis dit non, je ne recommencerai plus jamais. Non, il faut être comme ma grand-mère, faut attendre que, etc. mais en tout cas, c'est vrai que j'avais cette liberté immense et un désir de liberté immense. J'étais dans une révolte, j'avais besoin absolument d'écarter les murs, quoi.
Ben voilà, ça faut labelliser icône. Vous avez bien fait de venir.
C'est pas bien grave.
Mesdemoiselles, on vous a demandé des titres musicaux qui vous inspiraient un souvenir. On commence par vous, Aya, si vous le voulez bien. Et vous nous avez demandé.
Il y a des parfums d'ailleurs qui se promènent en couleurs.
C'est Thomas Pichot, vous pouvez nous le présenter ?
Alors ça, c'était une très belle découverte du dernier festival d'Avignon.
Je rappelle que le festival d'Avignon, c'est là où vous avez mis en place justement sur la route.
Exactement, on a commencé à jouer sur la route et donc l'une des comédiennes, Mata Gabin, nous traîne un soir en nous disant « Écoutez, j'ai un copain qui joue, il faut absolument aller le voir. » Et là, je découvre un véritable parolier, un auteur capable justement de raconter le quotidien dans les quartiers populaires, la solidarité, la fraternité, enfin voilà,
Un coup de cœur,
une très très belle soirée.
Coup de cœur artistique.
Artistique, humain.
Un soir de juillet à Avignon.
Voilà, humain, parce que justement on a eu la chance par la suite d'échanger avec ce chanteur. Mmh. Voilà. Et donc c'était. Je conseille en tout cas à tous et toutes de se montrer curieux et d'aller à la découverte de ce chanteur.
On va le découvrir un petit peu plus.
Au revoir, monsieur, dame. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur, madame. Monsieur, madame. Moi, il sait m'a parlé, on s'a raconté, ça les a bien fait rigoler. Moi, au collège, on m'avait conseillé d'apprendre l'espagnol ou l'anglais.
Changement d'ambiance avec Sappho, vous avez choisi.
Ah oui. C'est surprenant.
En même temps, enfin, tu as ce passé de danseuse classique.
Hein. Mais pas seulement. En fait, ça, c'était parce que quand je suis arrivée à Paris, j'ai atterri chez une cousine éloignée et on m'a laissé l'appartement. Et en fait, tous les disques étaient enfermés, il n'y en avait qu'un sur la table, c'était le Brandebourgeois de Bach.
Mais c'était. On entend en ce moment.
J'étais enchantée, en fait, parce que tous les matins, je mettais ce Brandebourgeois et ça me mettait en joie. Et j'allais. Et je voyais. Ce Paris coloré, parce que moi, c'est ma première rencontre avec Paris. Ce Paris monde, c'est un Paris monde. Il y avait toutes les couleurs, et je voyais les Africains danseurs, parce que quand ils marchent, ce sont des danses, quoi. Il y avait des mystérieux asiatiques. Enfin, il y avait toutes sortes de gens.
Ça vous mettait en joie.
Ah ouais.
Tenez, on va vous mettre en joie ce dimanche après-midi.
Thank you.
Après la joie, mademoiselle, la sévérité. Attention, fini de rigoler. Aya Sissoko, Sapho, on va revenir sur vos vies, mais façon inter. On va vérifier si vous avez la fibre de gauche, si vous avez le cœur sur la main. On va vous intériser.
Existe-t-il encore une gauche? Je ne sais pas.
Ben oui, moi, s'il en reste 15, je serai celui-là, mais bon.
Que d'espoirs immenses nous avions fondés avec Aya Sissoko. Enfance passée dans les rues de Ménilmontant, à côtoyer le Paris simple, le Paris pauvre, le Paris prolo. Et pour devenir de gauche, c'est bien ça, c'est très bien. Attiré par la boxe, on s'était dit, cette fleur de Ménilmontant se met sûrement au sport de combat pour mieux lutter contre les injustices et défendre les oppressés de la capitale et ceux contre le capitalisme grandissant de la cité qui a servi son peuple puis le repousse vers une banlieue aussi dortoire que déprimante. Mais ces engagements font-ils d'Aya Sissoko pour autant une femme de cœur? Non, bien sûr que non. Aya finit par plonger dans l'enfer de l'écriture. Ses deux romans, Dambé et Emba, sont salués par la critique et la profession. Fini la boxe et bonjour les gros bifetons. Jamais rassasiée, elle veut aller un cran au-dessus et décide de se lancer dans une carrière de comédienne. Et là, on sait où ça mène. En enfer! Oui, l'enfer où on brûle les planches en même temps que son âme. Et tout ça pourquoi? Pour mener une existence de patachonne excentrique au mépris des petits qu'elle va si vite oublier. Vilaine! Est-on mieux loti avec sa faux? C'est ce qu'on a pensé. Pas longtemps, mais on y a cru. Petite fille, Sapho grandit dans les ruelles parfumées de Marrakech. Marrakech, ville mystère où se côtoient les puissants et les miséreux. Ville fournaise l'été, ville balayée par les vents glacés de l'Atlas quand arrive l'hiver. Bref, de quoi vous forger un caractère en acier pour affronter ce monde aussi inégalitaire que cruel et défendre les moins forts en recherche d'un porte-drapeau de la lutte des classes. Mais pour autant, est-ce que cette enfance passée à Marrakech fait de Sapho une femme de cœur? Non! Bien sûr que non! Attirée telle un moustique par les lumières aveuglantes du showbiz, Sapho s'engouffre telle une flèche dans l'univers voluptueusement empoisonné de la chanson. Univers de la chanson, univers de perdition où elle s'égosille pour devenir étoile. Étoile pour protéger le monde? Que dalle! Étoile pour dominer le monde. Oubliez le regard compatissant sur la misère marrakechi, elle devient une fleur musicale qui se nourrit d'applaudissements et de sirop contre la toux. Elle chante, les foules s'enchantent, mais les pauvres déchantent. Castafiore! Aya Sissoko, Sapho, vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler des fers de lance de la lutte des classes, mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir avec nous aujourd'hui pour la journée mondiale de la schizophrénie et pour les soins de Patrick Duffy. Aya Sissoko, Sapho, ne changez rien. Sapho, c'est à votre tour de nous faire un beau cadeau. C'est on vous attend. Allez vous installer.
J'ai adoré Patachon.
Patachon.
Quelque chose qui parle du temps. Ça n'a pas l'air et ça s'appelle Fontaine. Sur la paume de l'amertume, je n'écrirai rien qui vaille. Celui qui chante doit faire taire les rancœurs. Le monde n'est pas sa mauvaise mère. Le monde est un spectacle d'or. Si l'étoile file, les mots tombent. Non, aïe, si c'est là ce qui se dit, ce qui n'est pas encore dit, ce qui ne se dira jamais. Entre ces temps, c'est là qu'il est. Celui qui chante, c'est là qu'il est. Non. Ah. Mais quoi, ce cœur noué, cette peur au ventre, cette peur sans fin, n'importe quoi peut l'allumer.
n'importe quoi. La brose d'or à la fontaine. Je suis toujours éveillée. La rose meurt à ma fontaine. Cette nuit, je suis encore en vie.
Bravo! Quelle chance. Chapeau qui a accepté de jouer pour nous. Formidable.
Quelle chance on a.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur.
Daniel Morin. Ouais.
Étant sur ma souffrance.
Sur France Inter.
Le charme caressant de ta douce présence.
La douce présence également de Sapho pour son album Sapho chante Barbara.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes.
C'était magnifique.
Du plus loin du premier rendez-vous.
Mais Sapho qui est présente avec nous également pour son livre aujourd'hui, journal au bord chez Bruno
Bravo.
Doucet, paru il y a 10 jours. Aya Sissoko pour la pièce Sur la route d'Anne Voutet, une pièce monologue à 3 voix. On va peut-être écouter un petit extrait.
Tout est déjà là, enfermé dans le vide de ce regard. Et comme si ça ne suffisait pas, le voilà qui plisse l'œil, me réduisant encore un peu plus comme on le ferait avec du bétail. À quelques détails qui pour lui disent tout. Le noir de ma peau, le décolleté de ma robe, la cigarette que je tiens à la main. C'en est fait, tout est dit. En un regard, nous sommes réduits à deux que tout oppose, effraie, irréconcilie.
Là, c'est vous qu'on entendait. Aya, vous pouvez nous resituer le contexte de la pièce ?
Eh ben là, Sandra Bland fait face à ce policier qui la dévisage et elle sait que tout va basculer.
Anthony, sur la condition des Noirs aux États-Unis, est-ce que ça va mieux ? Parce que on se disait qu'il y avait quand même des espoirs avec l'élection de Barack Obama.
Mais pas vraiment en fait. Je me suis un petit peu penché sur les chiffres, et puis d'ailleurs tous les Américains se penchent sur les chiffres, notamment depuis l'histoire, vous savez, de Michael Brown, ce jeune noir de 18 ans qui en août 2014 est mort tué par balle par un policier à Ferguson. D'où est sorti le fameux le mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement extrêmement puissant et qui justement s'intéresse aux violences policières aux États-Unis. C'est une histoire celle que vous racontez, mais c'est aussi une actualité. Il faut savoir qu'il y a par an 1000 personnes qui sont tuées par la police américaine et que dans ces 1000 personnes, par balle, c'est quand même incroyable, tous les ans, et que dans ces 1000 personnes, il y en a 22% sont des... Enfin, un quart sont des Noirs. Un quart sont des hommes noirs, exactement, qui, de toute façon, d'une manière générale, représentent 6% de la population américaine. Donc la disproportion est absolument incroyable et ce chiffre n'a pas changé ni en proportion ni en nombre, et ce depuis 10 ans. Ce qui s'est un peu amélioré, effectivement, c'est la prise de conscience générale de la population et c'est aussi petit à petit les formations des policiers, mais au fond, ça n'a pas changé. Et on pourrait presque dire que ça n'a pas changé depuis les lynchages de 1939, parce que quand on regarde les chiffres, aux alentours des années 30-40, il y avait par an 1 millier de Noirs américains tués, lynchés dans le sud des États-Unis. Et il y a notamment cette chanson absolument incroyable, comme le génie américain s'est en inventé quelquefois pour accompagner, y compris l'horreur, cette chanson magnifique de Billie Holiday qui avait été, voilà, Strange Fruit, qu'on va écouter ensemble.
Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange.
Vous savez ce que sont ces strange fruits, bien sûr.
Évidemment.
C'est pendu, c'est
bien. Oui, ce sont ces hommes, justement, pendus.
Pendu, enfin,
donc lynché.
Voilà, c'est lynché, exposé. Quelle horreur.
Une chanson qui a été reprise maintes et maintes fois, mais qui ont du mal, c'est reprise à prendre la sensibilité que donnait Billie Holiday.
Alors, vous avez un lien particulier avec cette chanson, parce que je crois qu'elle vous a beaucoup marqué.
Oui, au point d'appeler ma fille Billie.
C'est quand même un très bel hommage.
Mais c'est vrai que dans ce que vous disiez en termes de statistiques, on a tendance à croire aussi que c'est une problématique qui ne concerne que les États-Unis, mais on a aussi cette question aussi existe aussi en France, la question des violences policières, et l'actualité justement nous rappelle le cas d'Ama Traoré, justement ces jeunes hommes qui est mort asphyxié dans une cour de gendarmerie, dont les expertises dans un premier temps nous disaient qu'il souffrait d'une pathologie, alors que hier de nouvelles expertises contredisent justement la version première et que cet homme est mort du fait de violences policières.
Alors je voulais rebondir aussi là-dessus, parce que non seulement cette actualité est américaine, elle est aussi française, vous l'avez dit, elle est aussi brésilienne.
Exactement.
Avec le cas de Marielle Franco. Marielle Franco, c'est cette politicienne, mais aussi cette militante des droits de l'homme et cette militante civique brésilienne, issue des favelas, qui s'est élevée contre les violences policières et qui, en mars 2018, a été tuée, a été assassinée. Oui, on vient de l'apprendre il y a 2 jours à peine, qu'elle a été assassinée, justement. On vient d'arrêter ceux qu'on soupçonne de l'avoir qui sont d'anciens policiers, justement. Je rappelle que le 13 mars 2018, elle écrivait sur Facebook combien elle était opposée en fait aux violences policières, combien elle s'était élevée contre ça. Le 14, elle était tuée. Et cette actualité incroyable, parce qu'on parlait de Strange Fruit de Billie Holiday aux États-Unis, c'est comme ça que le génie américain s'exprime. Et vous savez que le génie brésilien s'exprime d'une autre manière. Eh bien, à Rio de Janeiro, la ville d'où elle est issue, il y avait, il y a quelques jours de ça, le carnaval de Rio, bien sûr, et une des grandes écoles de samba de Rio a choisi pour thème principal Marielle Franco, sa vie, et a brandi d'immenses drapeaux à travers tout Rio, la représentant, et c'est cette école qui a gagné, et c'est cette école qui a gagné ce carnaval de Rio. Vous savez qu'il y a eu le fameux concours qui est passé dans le Sambodrome, et je voulais vous faire écouter la fameuse samba imaginée pour Marielle Franco, pour elle, par elle, que chantait cette école de samba en passant le Sambodrome et qui a remporté la compétition.
Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra.
Et c'est aussi un bien-né évident à
Jair Bolsonaro, le nouveau président extrême droite. Et c'est aussi le génie du peuple brésilien qui est capable de danser, d'exploser de joie.
De danser de douleur.
De douleur sur une histoire absolument incroyable.
C'est ça, justement, c'est ce que je disais il y a un instant. Ce qui est formidable, c'est aussi cette dignité dans la lutte. Et c'est cette dignité aussi qu'on retrouve à la fois à travers cette chanson magnifique de Billie Holiday, de ce groupe justement,
de cette samba brésilienne. Désespérée.
Et c'est vrai que j'insiste là-dessus aussi, justement sur ces hommes et femmes qui, comme Assa Traoré, qui décide justement d'être en quête de vérité, parce que l'objectif, ce n'est pas justement... Moi, je sais qu'en France, l'objectif, ce n'est pas de se soustraire à l'autorité de la police. C'est juste d'être considéré comme un justiciable, comme un autre, au sein des quartiers populaires.
C'est exactement le combat de Marielle Franco, qui était noire,
exactement,
bien entendu, je le rappelle.
Exactement, c'est-à-dire que...
Il ne s'agit pas d'impunité, il s'agit d'impunité, de justice.
C'est juste
oui,
c'est de se dire que voilà, on veut être traité
c'est pas
de
plus
manière
que les autres, c'est pareil que les
équitable face à la police, face à la loi.
Merci Anthony.
Vous les femmes.
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Ça faut, j'ai entendu dire, vous étiez en plein enregistrement en ce moment, notamment le projet Electronic Poetry.
Alors c'est pas chanté du tout, c'est parlé sur une musique contemporaine électroacoustique, mais il y aura des moments un peu scandés de temps en temps, mais peu en fin de compte. Si j'y réfléchis, on est en train de composer la musique et de l'enregistrer tout en même temps, et voilà, on en est là, on est à la moitié, et il faudra finir pour la Maison de la Poésie là le 24, il va falloir que ce soit fini, voilà, et on enregistre en même temps dans des conditions de studio en fait.
Mesdemoiselles, tellement content de vous avoir avec nous que vous méritez des cadeaux. Et les cadeaux, c'est l'affaire aujourd'hui de Monsieur Antonio.
Oui, alors j'ai la rédaction en entier. Et puis moi aussi, je me suis penché sur les livres que je pouvais vous offrir. Et à une poétesse qui chante des années 80 et qui en plus a parcouru comme ça
Fontaine
et le siècle. Voilà, j'ai décidé de vous offrir ce merveilleux petit livre de Brigitte Fontaine qui s'appelle Paroles d'Évangile. Alors elle écrit moins d'une manière aphoristique que vous, elle est plus disciplinée, mais c'est une autre génération aussi, mais vous verrez, c'est très beau.
Ça m'intéresse.
Et je vous l'offre avec grand plaisir. Et puis pour vous, Yazid Soko, j'ai pensé, ou plutôt la rédaction avec moi a pensé, que l'histoire, vous savez, de Claudette Colvin...
Que je connais.
Que vous connaissez, que nous connaissons tous. C'est cette femme qui, en mars 1955, a refusé de
Rosa
se lever.
Parks. Elle est plus jeune que Rosa Parks.
Exact. Elle a 79 ans aujourd'hui. C'est une jeune personne qui vit toujours.
Et c'est la première qui va refuser de se lever. Mmh. Donc Rosa Parks, effectivement, appartient à la postérité maintenant. Mmh. Mais voilà, il y a eu un avant.
Il y a eu un avant, il y a eu cette Claudette Colvin. Alors, j'ai trouvé ce très joli,
très beau, hein.
Voilà, ce très beau, livre illustré à l'américaine, magnifique. Avec l'histoire de cette Claudette Colvin, qui, je le rappelle, est toujours vivante. Elle a aujourd'hui 79 ans. Et c'est une bande dessinée et en même temps un livre rare, qui s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin aux éditions d'Argo. Je vous l'offre avec grand plaisir.
Merci. Et puis j'invite tous les auditeurs et auditrices à s'y intéresser parce que c'est notre histoire commune.
C'est vrai.
C'est la fin de l'émission. Vous avez reconnu la petite musique qui l'indique. Aujourd'hui, nos invités étaient Sappho pour son album Sappho chante Barbara. Sappho qui sera demain, lundi, mais aussi mardi, mercredi, jeudi en concert à la Dame de Canton, une péniche Port de la Garce dans le 13e face à la bibliothèque François Mitterrand. Sappho qui nous a présenté rapidement, j'en suis désolé, son livre Aujourd'hui, journal au bord chez Bruno Doucet, lecture musicale prévue le 23 mars et samedi prochain à Lille chez Jewer Perle, 24 avril à Paris à la Maison de la Poésie, c'est pour ça que vous deviez vous dépêcher.
Oui.
Hein. Aya Sissoko sur la route, pièce monologue à trois voix. Si vous êtes programmateur, dépêchez-vous de vous emparer de cette pièce. Prochaine date le 21 mars, dans 4 jours, au Plateau Sauvage à Paris dans le cadre du festival L'Équipée.
Et d'ailleurs, auditeurs, auditrices, si vous voulez avoir les actualités sur cette pièce, donc allez sur la page Facebook de la compagnie Zartprod.
Tous les relais seront assurés sur le site de l'émission. Génial. Les amis, merci Anthony Bélanger. À la réalisation de cette émission, Marie-Annick Rimbaud, attachée de production Christine Kern. À la technique, Pierre-Yves Derolin, Loïc Frapsos. Programmation musicale, Thierry Dupin. La semaine prochaine, nos invités seront Charlotte Saliou et Régine. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter. Je vous donne rendez-vous demain avec Anthony Bélanger.
Mais oui.
Et ce sera vers 6h45. Bon dimanche.
Au revoir, Napoléon.
Au revoir, Napoléon. Au revoir.